Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on attaque ce rendez-vous ce mercredi par un coup d'œil sur les marchés. Il faut dire qu'il y a quand même pas mal de questions qui peuvent se poser en ce moment sur cette classe d'actifs, sur les marchés actions, notamment avec des banques centrales, avec des agences de notation. Pour en parler, Marc Riez. Bonjour Marc.
Bonjour Cédric.
Pour VGAIM, notamment banque centrale, donc encore oui. Et toujours, j'ai envie de dire, on pourrait presque les faire rimer avec les agences de notation. On a l'impression qu'elles se relaient presque
les unes et les autres,
ouais, en se renvoyant en quelque sorte la balle, avec quand même aussi un changement de pied. D'habitude, il n'y a pas de question. Historiquement, c'est les Américains qui tirent les premiers et la BCE, bon an, mal an, qui suit, qui embraye le pas comme elle peut. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on pourrait vivre quelque chose de quasi historique, puisque ça ne s'est jamais produit. La BCE pourrait taper en premier. Quel est votre sentiment sur cette éventuelle grande première ?
Cette éventuelle grande première, elle est surtout motivée par le fait que, plus que jamais, on voit une économie américaine qui domine de la tête et des épaules l'économie européenne. Donc finalement, on a deux banques centrales qui se retrouvent dans des situations très différentes, entre une banque centrale américaine qui doit faire face à un marché du travail très tendu, à une inflation qui a du mal à baisser, et à une économie qui continue à caracoler. Donc effectivement, elle se pose des questions, elle voulait, en fin d'année dernière, commencer à baisser ses taux ce printemps, et puis au vu du redémarrage de la conso américaine en ce début d'année, des salaires qui tiennent bien, elle hésite, elle repousse régulièrement cette échéance, voire même elle se demande si effectivement elle va pas encore, le cas échéant, les monter encore une fois. Et par rapport à ça, on a une économie américaine moribonde, une économie européenne, pardon, moribonde, puisque on n'a pas du tout de croissance en zone euro. Et là, pour le coup, le niveau des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne est clairement disproportionné par rapport au risque inflationniste. C'est vraiment le maillet qui veut écraser un minuscule insecte.
Une absence de fourmis, oui.
avoir pas du tout de fourmis. Et donc, effectivement, vous avez raison, Cédric, peut-être que cette fois-ci, la Banque Centrale Européenne, et je l'espère en tout cas, va s'affranchir de sa grande sœur et va être capable, seule déjà, de commencer à baisser ses taux. On est à 4,25, 4,50, ouais. C'est beaucoup, beaucoup trop élevé par rapport à une inflation en zone euro qui est revenue vers 2, avec pas de croissance, un marché de l'emploi beaucoup moins solide. Les taux européens n'ont rien à faire.
Bien sûr.
Au niveau actuel.
Ça, c'est vraiment pour l'Europe, mais vous l'avez dit, la Banque Centrale Américaine, elle recule, en espérant réussir à un moment à franchir le pas, mais elle a un petit peu l'épée dans le creux des reins, c'est-à-dire qu'elle a aussi un calendrier politique.
Oui.
Qui est hyper contraint, et on sait qu'il y a, alors bon, c'est pas gravé dans le marbre, mais il y a cette espèce d'accord tacite qui fait dire que la Banque Centrale Américaine, théoriquement, n'agit pas aux abords d'une élection présidentielle américaine. Et cette élection-là, elle est encore peut-être plus spéciale que toutes les autres.
Elle est en tout cas très clivante et avec des niveaux d'opposition qui risquent d'être de plus en plus violents à l'approche des élections. On voit d'ailleurs que les sondages, à un moment donné, donnaient à nouveau Biden devant Trump, puis à nouveau maintenant Trump devant Biden, et ce, en quelques semaines seulement. Donc c'est une élection qui va sûrement être très serrée, et qui, comme souvent aux États-Unis, va se jouer sur la santé de l'économie dans les mois.
Et donc la Fed, elle se retrouve un peu pas coincée, mais...
Elle est en tout cas l'arbitre des élégances, ouais. Et elle sera très 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 surveillée à cet égard-là. Puisqu'évidemment, baisser les taux juste avant une élection présidentielle, ce serait perçu par le camp républicain comme un coup de pouce clair à la réélection de Biden. Donc effectivement, elle a un peu, pas beaucoup de temps devant elle pour pouvoir le faire maintenant.
Ça, ce sont nos banques centrales. Et puis je le disais, il y a aussi les agences de notation qui font parler d'elles. Alors ça nous a surtout concernés en France. Mais voilà, on s'est fait peur il y a quelques heures, quelques jours, en se disant, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Finalement, statu quo et pour Fitch et pour Moody's. Ça vous inspire un commentaire ou pas? Parce que le gouvernement, lui, par la voix de Bruno Le Maire, il espère beaucoup, notamment des marchés, notamment d'une reprise de croissance grâce à la baisse de la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce qu'on en dit de ces agences de...
Je pense qu'elles font leur travail, c'est-à-dire qu'elles font des constats. Mais même si cette fois-ci, elles n'ont pas fait tomber le couperet qui guillotinerait la note de la France, on sent bien que malgré tout, dans les propos qu'elles tiennent autour du fait qu'elles maintiennent la note, c'est une question un peu de temps.
Oui, elles aiguisent.
elles aiguisent le couteau et la lame, parce qu'effectivement, on voit bien que la France a un niveau de déficit budgétaire qui est très supérieur aux autres pays qui sont notés comme elles, double A par exemple, chez Fitch. Et on voit que de la même manière, le taux absolu de dette sur PIB, qui est autour de 110% maintenant en France, est à peu près le double de la moyenne des pays qui ont cette notation. Mmh. Alors heureusement, le français est réputé payer beaucoup d'impôts efficacement, ouais. gentiment et proprement. Donc l'administration fiscale française a encore l'estime et a grand crédit sur les marchés financiers, c'est... Au moins une administration qui fonctionne. C'est quand même déjà mieux que rien. Bon, c'est pas le cas de toutes. Mais il va falloir que Monsieur le maire ne se contente pas d'espérer. Et, parce que je pense qu'il espère, il est certainement content que le couperet ne soit pas tombé cette fois-ci, c'est bien. Mais en l'absence de mesures structurelles, d'économie budgétaire, de réduction des dépenses, voilà, on est quand même sur une pente où la prochaine fois, ou celle d'après, eh bien, voilà.
Et dans ce contexte-là, on a quand même des marchés qui sont à des niveaux stratosphériques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un épargnant, dans son patrimoine, aujourd'hui, il doit être présent sur les marchés. C'est encore le moment d'être là.
Mais bien sûr.
Sur toutes les classes d'actifs.
Alors, sur toutes les classes d'actifs. En tout cas, il y a deux grandes classes d'actifs pour l'épargnant traditionnel aujourd'hui. C'est les actions et les obligations. Sur les obligations, on le voit... un panel d'obligations d'entreprises correctes à 5 ans aujourd'hui donne du 4%. Donc, c'est pas inintéressant, une inflation qui on l'a dit tout à l'heure, vers 2, d'avoir quand même dans son patrimoine une partie d'obligations, soit en direct, soit via des fonds, soit en support euro. Enfin, en tout cas, c'est un placement qui a un intérêt aujourd'hui. Et c'était pas le cas pendant pas mal d'années, vous vous en souvenez, Cédric. Et puis, à côté de ça, bien sûr qu'il faut rester investi sur les actions. Parce que le gros danger des actions, c'est qu'à certains moments, les épargnants se disent « Tiens, je vais vendre ». Et alors, en général, c'est pas toujours au très bon moment, parce qu'en général, c'est des moments... Voilà,
c'est même souvent au
et, bon voilà. moment. Et alors là, les marchés d'actions sont hauts. Donc, si y a des volontés d'alléger ou de prendre des profits, pourquoi pas? Mais on sait bien que la grosse difficulté, c'est après d'y revenir. Parce qu'en général, bah, la tendance sur le long terme est haussière. Et moi, j'ai vu beaucoup d'épargnants qui ont vendu à 4 000, à 5 000, à 6 000, à 7 000 sur le CAC et qui ne sont jamais remontés dans le train. Et pour le coup, bah, ils voient des belles valeurs dans la durée qui augmentent régulièrement.
Et qui n'ont plus en portefeuille.
Voilà. Et qui n'ont plus envie d'acheter parce qu'ils les ont revendus moins cher et ça les agace d'y revenir. Donc moi, je conseille quand même de garder une part de portefeuille actions importante sur du long terme. Ce qui ne veut pas dire que quand il se passe quelque chose d'inquiétant ou de mauvais sur une valeur, il ne faille pas réagir. Bien sûr, il faut réagir si on sent qu'une entreprise est durablement en difficulté et la virer de son portefeuille. Mais sinon, hormis ce cas-là, on a tout intérêt à garder les belles valeurs de son portefeuille très longtemps.
On a beaucoup parlé depuis maintenant plusieurs années presque des magnifiques, des superbes, etc. Enfin, de toutes ces très grandes valeurs, que ce soit aux États-Unis ou en France avec le luxe, etc. Et on a moins parlé des petites et moyennes capis qui sont aussi bien souvent des champions
dans
leur domaine, et dont on stigmatise toujours un peu la sous-capitalisation, etc., en disant qu'il va y avoir un rattrapage. Vous y croyez, vous? Il faut s'intéresser aujourd'hui à cette typologie de valeurs, parce qu'on a quand même souvent plus accès à l'information, au management, y compris pour les analyses, pour les gérants.
Alors, d'abord, ces valeurs, elles ne sont pas si faciles que ça à choisir. Parce que si on a un accès facile aux dirigeants, en revanche, il y a assez peu d'analystes qui suivent ces valeurs-là. Pourquoi? Tout simplement parce que les analystes ont très souvent tendance à suivre les grandes valeurs, parce que c'est sur les grandes valeurs que les volumes sont le plus importants. Or, c'est quand même le courtage sur les valeurs qui, in fine, malgré
l'analyse.
Voilà. Bon, même si on sait qu'on a dissocié ces deux choses, mais néanmoins, ça n'a pas généré cette dissociation d'intérêt majeur des analystes. Donc, c'est des valeurs qui, tout de même, sont pas si simples que ça à suivre. Et alors, l'autre point, c'est que, si vous voulez, les petites sociétés comme ça, souvent, ont encore des besoins de financement pour développer leurs projets, pour investir, pour grandir, et que, pour l'instant, elles sont forcément pénalisées par le très haut niveau absolu des taux d'intérêt. Donc, tant que vous avez des taux d'intérêt élevés,
donc,
ça ne sert
BCE
pas...
Donc, vous BCE pour se dire peut-être que...
Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile pour une grande boîte très riche en cash. Alors, évidemment, beaucoup de gens pensent à Apple, mais il n'y a pas que Apple qui a beaucoup de cash, ou Microsoft, qui bénéficient de ces taux d'intérêt élevés et sont rémunérés sur leur trésorerie, que, bien sûr, pour des petites boîtes qui doivent investir, porter des projets, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment surveiller ça, comme vous le dites, l'évolution des taux d'intérêt, et que dans des phases de baisse des taux d'intérêt, là, on pourra à nouveau revenir sur des petites ou moyennes capitalisations. Pour l'instant, nous continuons à privilégier les grandes.
Juste un petit mot pour terminer sur la vie du marché aussi, qui parfois peut interpeller un épargnant. Quand on voit les questions autour de Total, par exemple, mais il n'y a pas que Total, hein. Il y a toutes les questions aussi autour des intros, autour... Voilà. Quand dans la vie du marché, on se dit, tiens, la cote parisienne pourrait, in fine, de plus en plus s'appauvrir si Total part aux États-Unis, mais on a aussi des dizaines de valeurs qui sont en fait cotées à Amsterdam. Alors, ça reste Euronext, certes, mais ça n'est plus la Bourse de Paris. L'homme de marché que vous êtes depuis longtemps, Marc, qu'est-ce qu'il se dit en voyant la cote parisienne peut-être un peu s'appauvrir?
Moi, je suis très triste de ça, parce que comme vous le dites, ça fait 35 ans que je travaille pas trop loin de la Bourse de Paris et toujours avec... beaucoup d'estime et de proximité avec ces grands champions français qui sont cotés. Alors après, certains champions, vous le dites, sont cotés ailleurs. Bon, ça reste quand même des champions français, même s'ils ne sont pas cotés à Paris. Donc ça, c'est quand même une petite consolation. Mais c'est vrai que c'est très dommage de voir que des groupes comme ça se posent même la question d'aller se faire coter ailleurs. Ça veut dire qu'il y a vraiment un travail que peut faire Bercy et les autorités françaises pour que la place de Paris reste attractive et conserve à minima, voire même attire, il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas le cas, des valeurs de qualité. Il y a en France un marché de l'asset management qui est très riche, une épargne des Français qui est parmi les plus élevées du monde. Donc, il y a des capitaux en abondance.
Il faut qu'on ait les titres.
Voilà, et donc il faut qu'on ait, on garde nos grands champions.
Merci Marc Riez, VegaIM sur Radio Patrimoine.
Merci.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.